France Culture.
Nu, Caroline Brouet.
Farouk Mardambé, éditeur franco-syrien.
Premier épisode, voyage dans une Syrie libérée. Bonjour Farouk Mardambé.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous,
merci
à Paris,
à
un jour d'hiver, pluvieux. On va peut-être entendre la pluie. Vous êtes un intellectuel et un passeur. Peut-être que ce mot de passeur vous va particulièrement bien. Tour à tour bibliothécaire, conseiller culturel à l'Institut du Monde Arabe, traducteur, essayiste, éditeur. Vous êtes connu pour faire le pont, grâce aux traductions littéraires et aux auteurs que vous éditez dans votre maison, Sinbad Actes Sud. Vous faites le pont entre la France où vous vivez depuis 50 ans et le monde arabe, à commencer par la Syrie, votre pays d'origine. Vous avez été d'ailleurs l'un des premiers opposants au régime d'Hafez al-Assad, le père de Bachar al-Assad, avant de vous installer définitivement en France en 1976. Ça fait longtemps que je pense faire une série avec vous, Farouk Mardambé, et si nous la faisons enfin en ce début d'année 2025, c'est sans doute grâce à deux événements. Le premier, c'est le 30e anniversaire de Sinbad, qui fut de 1972 à 1995 une maison d'édition indépendante, avant d'entrer dans le giron Actes Sud, pour en devenir un département à part entière, que vous dirigez depuis. Et la deuxième raison, c'est la chute du régime de Bachar al-Assad en décembre 2024, le 8 décembre 2024 pour être précise, après 54 ans de dictature assadienne. Et je vous propose justement de commencer, une fois n'est pas coutume, par ce voyage que vous venez de faire en Syrie. On pourrait presque dire que c'est un beau cadeau pour vos 80 ans, sachant que vous n'y étiez pas retourné depuis 1975, c'est-à-dire 50 ans.
Exactement. Et ce retour était bien sûr chargé d'une émotion indescriptible, émotion d'ailleurs que je ressentais depuis la chute du régime, évidemment. Mais là, en rentrant en Syrie après 50 ans, déjà en quittant Paris à l'aéroport, j'étais ému en disant « voilà, pour la première fois maintenant, je vais dans mon pays natal ». Depuis 50 ans, je ne l'ai pas été il y a 50 ans. Ma mère venait de mourir et j'ai été pour son enterrement. Et puis c'était la dernière fois. Et puis, à Beyrouth, puisque je suis parti à Damas à partir de Beyrouth, il n'y a pas de voyage direct en Syrie. C'était la même émotion. J'ai été accompagné dans le voyage avec deux amis très proches qui sont les co-auteurs du livre « Dans la tête de Bachar al-Assad ». Ziad Majed et Soubri Hadidi, avec un ami cinéaste syrien qui vivait au Liban et qui est aussi l'un des très anciens opposants au régime, Ali Attassi. Alors, premier moment exceptionnel quand nous avons traversé la frontière syro-libanaise.
En voiture.
En voiture, avec un panneau. Bienvenue en Syrie. Et puis, on arrive à l'entrée de Damas, à la place des Omeyyades, qui avait beaucoup changé d'allure, mais enfin bon, c'était quand même l'entrée que je connaissais de Damas. Et arrivé à l'hôtel, il y avait des amis qui nous attendaient en groupe, en chantant, etc. « Lève-toi, tu es un Syrien libre », etc. C'est un chant de la révolution syrienne. C'était une ambiance très joyeuse. Alors ensuite, tout de suite... dès que j'ai posé mes affaires à l'hôtel, j'ai été plongé tout de suite dans mon passé. Pourquoi ? Parce que dans la rue où est situé cet hôtel, il y avait une librairie à Vicennes où j'ai travaillé pendant quelques mois quand j'étais étudiant. Je crois que c'était en 1964. Et la librairie a disparu, elle était fermée. En regardant par la fenêtre, elle est très poussiéreuse, elle est fermée depuis longtemps. Mais l'enseigne était toujours là, librairie Avicenne. Donc je me suis tout de suite rappelé ces années-là. En face, il y a toujours le plus grand lycée public de Damas. Et là, j'avais enseigné le français pour remplacer un prof décédé ou qui est parti à la retraite, je me rappelle plus. Aussi pendant quelques mois, la même année ou l'année suivante, en 65. Donc, tout de suite, c'était les souvenirs qui me revenaient. Et puis, on s'est promené avec les deux amis dans les rues, qui n'ont pas beaucoup changé. Je me suis retrouvé tout à fait dans mon élément. Là, on est au centre de Damas. Damas qui n'a pas beaucoup changé, au centre. Je passe devant les cinémas que je fréquentais, qui sont fermés. Les librairies qui sont fermées aussi. Et puis, on est invité le soir avec des amis. On est dans une ambiance très, très joyeuse. Et ça, c'est l'arrivée, quoi. Le lendemain, c'était tout à fait autre chose. Parce que là, il fallait qu'on se promène un peu plus loin, qu'on aille... pas enquêter, mais quand même redécouvrir, disons, ce qu'est devenu, ou découvrir ce qu'est devenu Damas. Et là, c'était un grand choc pour moi. Un grand choc parce que ce qui est évident immédiatement, c'est la pauvreté. On voit à quel point la situation sociale dans le pays s'est détériorée pendant ces 50 années. Beaucoup de pauvres gens venus des banlieues ou de la ceinture de la pauvreté autour de Damas, j'y reviendrai sans doute, avaient installé des étalages, après la chute du régime, des étalages un peu partout dans la ville, où ils vendaient des choses très simples, des cigarettes, des chewing-gums, des boîtes de conserve, etc. Et la circulation était absolument impossible avec tout ça. Surtout qu'il n'y a pas d'agents de la circulation. On dirait que c'est un pays où il n'y a pas de police, quoi. Et en fait, l'État en tant que tel est complètement absent de la vie. On voit rien qui rappelle qu'il y a là un État ou un nouveau régime. Sauf des soldats de Hayat Tahrir al-Sham, les gens qui ont pris le pouvoir là, qui ont chassé Bachar, et qui sont en partie étrangers, qui sont pas syriens. La majorité est syrienne, mais il y a des étrangers, je suis même tombé sur un Ouïghour, à l'entrée du grand marché de Sour el-Hamidi et de Grand Souk. Autre remarque immédiate, c'est la surpopulation. Damas, quand je l'ai quitté, avait peut-être 600 000 habitants, et maintenant il doit y avoir 3 millions. C'est une ville très polluée, et les services publics sont très détériorés. Il n'y a pas d'électricité, 2 heures par jour seulement. L'eau est rare, et quand je dis qu'il y a 2 heures d'électricité, que l'eau n'arrive pas aux étages, donc il n'y a pas d'eau chaude. Et on m'a raconté que les gens essayaient de réchauffer dans des marmites de l'eau pour pouvoir se laver. Et cela depuis pas mal de temps. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de service public. En général, on sent cette détérioration énorme encore des services publics. Troisième constatation, la pollution, bien sûr, avec tout ça. Du bruit, parce que la circulation est telle qu'elle est. Des klaxons, enfin, ce sont de petites choses qui frappent tout de suite. Maintenant, l'essentiel pour moi était de revisiter les lieux de mon enfance et de la jeunesse, de la première jeunesse. J'ai dit 2 mots à propos de cette librairie, de ce lycée, mais il fallait que j'aille là où j'habitais quand j'étais tout gosse, l'école primaire, l'école secondaire, etc.
C'est là que vos pas, Farouk Mardambe, vous ont emmené assez vite, c'est-à-dire que vous avez eu envie tout de suite d'aller sur les lieux de votre enfance?
Oui.
Alors évidemment, l'hôtel où vous logiez, vous disiez, il était dans la rue de la librairie, dans la rue du lycée, mais l'école que vous fréquentiez n'y était pas, donc il fallait aller, et vous aviez envie d'aller voir.
J'ai commencé par l'immeuble où j'ai habité entre 1955 et 65. Bon. C'était les années de lycée, d'université.
Vous êtes né en 1944.
Bon. Et je l'imaginais, parce que je connais un peu la carte de la ville, le plan, et comment la ville s'est étendue d'une manière incroyable, des quartiers nouveaux, là où on habitait. Alors bien sûr, je me suis rappelé comment c'était dans ces années 50, à la fin des années 50, quand cet immeuble était situé à la limite de la campagne, disons, à la limite de la route, les vergers là qui entourent Damas. Et il suffisait d'enjamber un ruisseau pour être dans un verger d'abricotiers, de mûriers.
Aujourd'hui, plus
du
tout.
On achetait des légumes, on demandait aux jardiniers de nous vendre du lait de brebis ou de chèvre. Enfin bon. Et là, bien sûr, déjà avant de quitter, il y avait une ou deux rues au-delà de notre rue. Mais là, alors, il y a tout un quartier, un immense quartier. Et pratiquement tous les vergers ont disparu, bien sûr.
Ce n'est que de la ville.
Et la grande place des Abbassides, qui est située au nord-ouest de la ville, qui est limitée, qui était à la limite de la ville, là aussi, au-delà de cette place, il y a des quartiers, et en fait, des constructions ont avalé toute la route. Et on voyait de loin les destructions des uns de Jobar. Là aussi, je vais revenir. L'immeuble où j'habitais quand j'étais tout petit, jusqu'à l'âge de 10 ans, je l'ai reconnu. C'est dans une rue qui est restée la même, quoi. Elle n'a presque pas changé. Un peu vieilli, bien entendu. Les immeubles ont vieilli, ils sont plus ce qu'ils étaient. Mais j'ai reconnu tout de suite l'appartement au troisième étage où j'étais. Et au premier habitait un ami, ce qui m'a rappelé nos relations avec cet ami et sa sœur. Et l'école primaire, c'était une école pour enfants de bonne famille. Et c'était situé dans le quartier chic de la ville, le quartier le plus chic à Bourmane. Bon, il était toujours là.
Et le quartier est toujours chic ?
Oui, oui, le quartier est chic. Et puis, grande émotion devant le lycée. C'est le lycée de la Mission laïque française, où j'ai été de 54 à 61. Et là, ce lycée avait changé. L'État a mis la main sur ce lycée et lui a donné le nom de Bassel Assad, le fils aîné de Hafez Assad, qui est mort dans un accident de voiture. Alors, arrivé là, c'était la sortie des élèves. C'est une école où ça va du jardin d'enfants jusqu'au bac, avec une population qui ressemblait pas du tout à ce que c'était dans le temps. Parce que là aussi, du temps du lycée français, c'était, bon, disons plus des enfants de famille bourgeoise, quoi, ou petite bourgeoise, la couche supérieure. Et là, c'était devenu beaucoup plus populaire. Et j'essayais d'entrer, d'aller dans les classes, etc. Le gardien était tout à fait sympa, mais il m'a dit, là, il est à la sortie des classes, on peut pas revenir demain, je suis pas revenu. Bon. Mais il m'a invité à aller dîner chez lui le lendemain. Je veux dire, il y a cette courtoisie et cette gentillesse qui est un trait de la ville de Damas. Bon, les Damasènes sont connus, comme ce sont des commerçants essentiellement, ils sont connus pour être très affables, très entreprenants. Et donc,
ça, c'est un trait constant qui n'a
oui,
pas changé.
Oui, et Damas en particulier est connu pour ça. Et en fait, tous les gens que j'ai rencontrés étaient très gentils. Bon, vraiment, il y avait une gentillesse. Bon, même les soldats étaient souriants. Bon, c'était la contagion de la ville, ou je sais pas. Mais
vous pensez pas, Farouk Mardambek, ça a pu être déformé, que vous aviez pu aussi être déformé par l'émotion, l'élan, l'enthousiasme d'être là-bas. Vous avez l'impression que tout le monde
oui,
vous souriait
oui.
parce que vous étiez peut-être content d'y être.
Bon, en tout cas, c'était ça. C'est-à-dire, je n'ai pas eu. Je vais vous donner un exemple. Dans les embouteillages, c'est-à-dire, on est dans un taxi, un embouteillage, on peut rester bloqué un quart d'heure. Bon, on n'entend pas une insulte. Non, ça c'est quelque chose de nouveau probablement. C'est-à-dire les gens se rendent compte qu'on est dans un moment exceptionnel et qu'ils n'ont pas à s'énerver, quoi. Bon, pas d'énervement, pas de dispute, pas de bagarre. Bon, vraiment. Alors voilà, je veux dire que j'ai redécouvert ces lieux qui m'importaient de voir avant toute chose. Et puis il fallait découvrir le reste. Et le reste, c'est ce que la guerre, ce que la révolution, puis la guerre et les bombardements on fait.
Oui, vous parlez de destruction tout à l'heure.
Oui, de destruction. D'abord, dès qu'on traverse la ville en tant que telle, et on est dans les banlieues pauvres, on est toujours frappé par la misère, la vraie misère. Que dire. Exemple, sur des centaines de mètres, on vend des vêtements usés. Mais vraiment, des étages, on peut finir, avec beaucoup de gens autour, on dirait que les gens ne peuvent s'habiller vraiment qu'en vêtements usés.
Vous avez trouvé la vie chère ?
La vie est très chère. La vie est très chère. Un café, dans un café que fréquentent les intellectuels, coûte à peu près 2 euros et demi, comme à Paris. Alors que les salaires peuvent être à moins de 50 euros. Le salaire d'un fonctionnaire. Bon, sans parler maintenant du nombre considérable des sans-emploi. Bon, des mendiants dans la rue, pas collants, mais des mendiants. J'ai vu dans la banlieue des gosses qui plongeaient dans la poubelle à la recherche de quoi manger. Là aussi, il y a 50 ans, il n'y avait pas cette pauvreté, quoi.
En tout cas, dans la ville
de Damas, et j'imagine que c'était comme ça aussi à Alep, à Homs, à Hama, dans les grandes villes, on ne voyait pas. Il y avait certainement des paysans très très pauvres, mais en ville, je ne me rappelle pas en tout cas d'avoir vu de mes yeux ce genre de... Un état aussi...
Délabré.
Délabré, aussi terrible sur le plan social, quoi.
Et sur le plan politique, est-ce que vous avez... parler avec des Syriens. Est-ce que vous avez constaté plutôt que les gens se parlent, se rassemblent, ils ont envie de se parler, ils ont envie de se rassembler, ils ont envie de profiter de ce temps de liberté où il y a encore cette recherche éperdue des disparus, par exemple ?
Il n'y a pas de doute que... D'abord, il y a une liberté de parole, liberté d'expression complète. Dans le temps, même un Syrien qui venait à Paris et qu'on voyait ici dans un café, il regardait derrière lui pour être sûr qu'il n'y a personne qui n'a pas des oreilles qui écoutent, quoi. Bon, là, tout le monde parle. Au café, j'ai été une seule fois, à vrai dire. Il y a eu d'ailleurs une rencontre autour de la justice transitionnelle et un débat, et tout le monde participait. Mais vraiment tout le monde parlait, disait, critiquait. Les nouveaux venus, là, comme ça. Bon, ça, c'est une évidence. Et on sent que les gens, en tout cas la majorité des gens, j'ai pas vu tout le monde, non, mais les gens que j'ai vus étaient plutôt contents. D'abord, contents de la fin du cauchemar, sans doute. Bon, des gens sont inquiets aussi. Tout ça, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Non, c'est la situation sociale et les destructions qui sont terribles. Alors, j'ai été, par exemple, au nord-ouest de Damas, dans le quartier qui s'appelle Jobar, puis à Zamalkand. Jobar, tous les immeubles, c'est des squelettes, quoi. Il ne reste rien, quoi. La ville est complètement détruite. Bon, c'était une petite ville. Bon, d'abord, dans le temps, c'était un village, avec des vergers, etc. Mais maintenant, c'est une petite ville complètement détruite, en tas de squelettes. Un peu plus haut, un peu plus loin, Zamalkand. Zamalkand est aussi l'autre localité qui a été bombardée au gaz. C'est là qu'il y a eu 900 victimes de l'attaque chimique. Et nous avons visité le cimetière. Les 900 sont enterrés dans une fosse commune parce que l'État n'a pas permis que ce soit autrement du temps de Bachar. Et rien n'indique qu'il y a 900 êtres humains qui sont là, quoi. Et sinon, d'ailleurs, dans le même cimetière, c'est aussi des tombes communes, quoi, des tombes dans lesquelles il y a 10 personnes, 20 personnes, etc. Là aussi, c'est extrêmement délabré. De là jusqu'à la ville de Douma, qui est la capitale de la Haute-Orientale, et qui a subi aussi des destructions énormes, des bombardements à la fois de l'aviation russe et de l'aviation syrienne par des barils d'explosifs. Au sud de la ville, nous avons été au camp palestinien de Yarmouk. Camp palestinien de Yarmouk abritait dans le temps peut-être 160 000 Palestiniens, plus 100 000 Syriens de conditions modestes. Là, c'est un spectacle qui ressemble à Gaza. C'est-à-dire, tout est détruit. Tout. Bon, il n'y a rien. Et le camp est complètement vide. Peut-être il y a 20, 30, 40 personnes qui sont revenues et qui essayent de trouver le moyen de réparer un petit coin, une chambre dans leur maison pour y habiter. Le cimetière de Yarmouk a été complètement détruit par l'aviation russe et même labouré après par la police militaire russe. Et c'est là qu'était enterré l'un des grands dirigeants de la résistance palestinienne, des fondateurs du Fatah, Abu Jihad. Et un ami à nous, à Elias Sambar et moi, qui était le représentant de l'OLP en France, Zidine Qalar, assassiné à Paris en 1978. Là aussi, il était enterré. On ne trouve plus sa tombe, ni la tombe de ce dirigeant. Il n'y a rien, quoi. En même temps, à Yarmouk, il y a quelque chose de très très émouvant, c'est de sentir comment les gens qui sont revenus veulent revivre là. Ils veulent vraiment montrer que l'amour n'est pas mort. Alors, il y a des hommes et des femmes avec un petit étalage où ils vendent des cigarettes, des, comme toujours, des petites choses comme ça. Des enfants qui jouent au football. Un pharmacien qui a accroché un écriteau comme ça, tout propre et tout neuf. Ça se voit, ça tranche avec tout le reste pour dire qu'il va rouvrir sa pharmacie prochainement, etc. C'est-à-dire, cette foi inébranlable dans la vie est très émouvante. Ça nous a fait pleurer autant que l'instruction. Bon. J'ai pas été plus loin parce que de toute façon je suis resté que 5 jours, mais ce sont les premières remarques que j'ai eues pendant ces 3-4 jours. Sinon, j'ai essayé de marcher, de déambuler seul, parce que pendant 2 jours j'étais seul puisque les deux amis étaient partis. Donc j'ai marché un peu partout dans la ville.
Dans Damas, vous voulez dire.
J'étais à la poste, rien que pour voir. J'ai été devant la vieille gare. J'ai pris des taxis. J'ai été dans un minibus. Bon, rien que pour voir un peu comment les gens
vivent. Sentir la ville.
Ouais. Et puis j'ai déambulé aussi dans les quartiers chics, comme j'ai dit, à Bourmane par exemple, où habitait ma tante. J'ai tout de suite reconnu son appartement. Et puis, l'appartement de mon grand-père, qui est aussi dans le même quartier. Tout ça, le centre culturel arabe, on l'appelait le centre culturel arabe, où il y avait le premier club du cinéma à Damas, où j'allais. Il est là toujours, il n'a pas changé. Ce quartier n'a pas changé, il est tel quel. Et vous savez que la bourgeoisie damascène a été assez... En partie, pas toutes, mais enfin en grande partie, assez complices du régime, quoi, pendant longtemps. Bon, c'est-à-dire, il y a eu une sorte de d'accord non écrit entre le pouvoir du Baas, Hafez Assad puis son fils, avec la grande bourgeoisie damascène. Et il disait toujours, bien, on vit bien, etc. On continue de vivre. C'est-à-dire, c'était pas des gens qui étaient pour la révolution, sans doute. Leurs quartiers sont restés tels quels. J'ai pas parlé de la vieille ville. Parce que la vieille ville aussi n'a pas changé. Et ne pouvait pas changer parce qu'elle est dans une enceinte, quoi. Et là, très très peu de changements. Il y a une nouvelle place que je connaissais pas à l'entrée de la mosquée des Omeyyades. La mosquée des Omeyyades qui est un peu le symbole de Damas. Et donc on l'a visitée, j'ai été 2-3 fois. Et c'est un endroit où les Damascènes avaient l'habitude, quand ils faisaient leur marché aussi, d'entrer dans la mosquée, même pour se reposer, quoi. Bon, la salle de prière, très grande, une immense salle de prière, très accueillante, mais on voit des gens assis, pas pour prier, forcément. Bon, et la cour est énorme aussi, les gens se promènent dans la cour. Maintenant, il y a un gardien qui est un soldat aussi de Hayat Tahrir al-Sham, bon... souriant, il dit rien, quoi, il n'intervient pas. Donc, sur cette place, j'étais très heureux de voir sur un étalage des livres qui étaient interdits.
Du temps de.
Notamment des livres de la littérature carcérale syrienne, et parmi ces livres, le chef-d'œuvre de cette littérature, Al-Qawqa'a, la coquille, de Mustafa Khalife. J'étais très heureux. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, de voir qu'on vendait ce livre à l'entrée de la mosquée des Omeyyades. Bon, ce qui est une très belle chose. Mais aussi parce que ce livre, l'auteur n'avait pas trouvé un seul éditeur pour le publier. Bien sûr, en Syrie, c'était impossible, mais même à Beyrouth. Et quand il me l'a passé, je lui ai dit que c'était la première fois que j'allais publier un livre en français avant sa parution en arabe. C'est-à-dire à partir du manuscrit, pas à partir d'un livre déjà imprimé. Et ce n'est que 2 ans plus tard qu'il a sorti en France, en 2007, je crois, qu'il a été publié à Beyrouth. Bon. Et sans aucune mention que cela se passe en Syrie, aussi l'édition arabe. Bon, je l'ai trouvé là. Il y a l'ami photographe qui était avec nous, qui a pris la photo, mais je ne l'ai pas reçu. Et j'ai dit, aujourd'hui même, j'ai appelé Mustafa Khalife pour lui dire que j'ai vu son livre.
Parce qu'il vit en France, Mustafa Khalife.
Ouais.
Il vit en France. Ouais. Qu'est-ce que, dans ce court voyage qui a été le vôtre, mais qui a été, je pense, d'une densité, d'une intensité telle que, sans doute, avez-vous l'impression, Farouk Mardambeh, d'être parti des semaines, Est-ce que vous diriez que vos sentiments ont été contrastés entre des moments de joie immense et une profonde, peut-être même une tristesse de voir le pays dans lequel il est ?
Sans doute. Plus qu'une tristesse. Ce que j'ai vu à Jobar, à Zamalka, d'un côté, et à Yarmouk, parce que j'imaginais ce qui s'est passé ailleurs aussi. Parce que là, c'est Damas. Damas, la ville, le centre-ville n'a pas été bombardé puisque Assad était là, quoi. C'est-à-dire, il contrôlait la ville, donc il n'avait pas à la bombarder. Bon. Mais la banlieue, si. C'est les trois quarts de la Syrie qui ont échappé à son pouvoir. Entre 2011 et 2018-2019, bon, c'est les trois quarts de la Syrie, ou les deux tiers, disons, de la Syrie qui avaient échappé au pouvoir. Et c'était les villes et les villages qui ont été bombardés. Alors, si Damas est comme ça, comment était Alep ou Homs, etc. Bon, donc, on imagine à quel point il faut des années pour reconstruire, quoi. Il faut des années pour reconstruire. Et une reconstruction qui n'est pas seulement matérielle, c'est-à-dire il faut reconstruire, bien entendu, tous ces quartiers détruits, mais il faut reconstruire le pays sur le plan politique, sur le plan économique en général, et même sur le plan, psychologique, les relations entre les Syriens, quoi. Comment faire après tout ça, après 500 000 morts? Jusqu'à maintenant, il y a 120 000 disparus. Bon. Et ce qu'on a vu des prisons... Et
vous n'y êtes
ça.
Pas allé
bon,
vous
comment, n'êtes pas allé comment, voir comment aboutir à une réconciliation nationale, à une reprise dans la tension qu'on connaît entre les différentes communautés religieuses, etc. Nous avons besoin, là aussi, probablement, nous en parlerons
dans la dernière émission.
On a besoin d'une justice transitionnelle avec toutes les garanties, etc., pour que les criminels soient punis et qu'il n'y ait pas de vengeance et de représailles, ni des vengeances individuelles, ni des représailles communautaires. Bon, c'est une question qui est très vivante et essentielle aujourd'hui.
C'est une question que nous aborderons, Farouk Mardembeh, dans le dernier temps de ces entretiens, où nous aborderons la question d'aujourd'hui et de demain sur un plan politique et sur un plan de la société syrienne. Merci beaucoup de ce témoignage, merci beaucoup de ce voyage que vous venez de faire donc en ce début d'année 2025. Demain, pour l'émission 2, nous parlerons du paradis perdu, c'est-à-dire avant tout ça, avant votre départ, votre enfance, votre famille, vos études. À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue avec Farouk Mardembeh, réalisation Laure-Hélène Planchet, prise de son Stéphane Foulon, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.